7h30, c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour.
Bonjour à tous. Sans doute la dernière journée du gouvernement Castex avec Maxence Lambrecq. Nous ferons le tour des partants potentiels et des ministres susceptibles de rempiler. Les affaires d'espionnage ont fait leur première victime en Espagne, la patronne des services de renseignement limogée. Aux États-Unis, une personne meurt d'overdose toutes les 5 minutes. 107 000 décès en 2021. Une majorité due aux opiacés de synthèse. Et puis le conte de fées de Léa Millet. La comédienne a été choisie parmi 500 candidatures pour incarner la nouvelle Cendrillon de Joël Pommerat au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui la directrice du tournoi de Roland-Garros, ancienne championne de tennis, j'ai nommé Amélie Mauresmo.
France Inter.
Et pot de départ ce soir à Matignon.
Les ministres sont tous invités à dîner par Jean Castex. Dîner d'adieu puisque le Premier ministre remettra sans doute demain vendredi la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron. Tous sont donc susceptibles de quitter la scène. Certains ont déjà fait connaître leur envie de tourner la page, quand d'autres sont en campagne pour rester. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Voyons déjà ceux qui devraient partir avec plus ou moins d'enthousiasme.
Oui, Jean Castex ne cache pas son sourire à l'idée de revoir ses Pyrénées. Il ne sera candidat ni aux législatives ni aux sénatoriales. Tout porte à croire qu'il va vite tourner la page. Jean-Baptiste Djebbari, Cédric O, Adrien Taquet quitteront avec bonheur ce monde politique. L'éducation, la santé et l'écologie ont été au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron. Il va y installer de nouveaux visages et remercier donc Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal, Olivier Véran et Barbara Pompili. Ces deux derniers espèrent rebondir ailleurs. Après 5 ans auprès des armées, on donne Florence Parly sur le départ, mais certains entendent son nom pour Matignon. De beaux parcours ministériels touchent à leur fin. Annick Girardin, 7 ans sur le pont sans interruption. Roselyne Bachelot, 9 années en tout, dont ces deux dernières à la culture. Une décennie est passée pour Jean-Yves Le Drian à la Défense, puis aux Affaires étrangères. L'enlisement de la guerre en Ukraine favorise une passation de pouvoir au Quai d'Orsay.
Et il y a aussi Maxence, tous ceux qui espèrent rester.
Avec d'abord les 7 bons élèves qui ne s'inquiètent pas trop pour leur avenir. Julien de Normandie, Gabriel Attal, Olivier Dussopt, Amélie de Montchalin, Marc Fesneau, Sébastien Lecornu, Clément Beaune. Ensuite, le président ne peut pas se permettre de laisser Darmanin et Le Maire dans la nature, analyse un ancien Premier ministre. Ils resteront dans le jeu. Bruno Le Maire veut poursuivre à Bercy. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, semble les favorites pour Matignon. Est-ce encore d'actualité? Chacun spécule, ils sont une quinzaine de ministres en plein brouillard. Éric Dupond-Moretti, Marlène Schiappa, Agnès Pannier Runacher, Emmanuel Wargon, Franck Riester, beaucoup ont aussi devant eux l'incertitude des législatives, ne sachant pas si une défaite sera synonyme d'éviction fin juin.
Maxence Lambrecq, zéro Covid en 2 ans de pandémie, la Corée du Nord en faisait une fierté. Le pays est complètement fermé depuis 2 ans, mais le premier cas d'infection a été signalé et le dirigeant Kim Jong-un ordonne un confinement dans tout le pays. On en reparle dans le journal de 8h. Confinement total en Corée du Nord, alors qu'en France, à partir de lundi prochain, terminé l'obligation de porter un masque dans les transports en commun. Il reste cependant recommandé. À présent, une pathologie qui concerne 1 à 2% des grossesses, l'hyperémèse gravidique. Il s'agit de vomissements handicapants. Ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent être dangereux pour la santé de la mère comme de l'enfant. D'ordinaire, les nausées sont bien connues au début d'une grossesse. Elles disparaissent au bout de 3 mois, mais pour 10 000 femmes par an, la grossesse sera un véritable calvaire. Cette maladie sera enfin reconnue aujourd'hui en France par un groupe d'experts sous l'égide du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Anne Orenstein.
Pour elles, la grossesse a été un enfer, d'autant que leurs symptômes n'ont pas été pris au sérieux par les médecins. Pourtant, dans les pays anglo-saxons, l'hyperémèse gravidique est une pathologie reconnue, avec des critères précis, comme le nombre de vomissements par jour, supérieur à 20, ou la perte de poids. Ça a été le cas d'Audrey Tranchant, présidente de l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique.
J'ai perdu en premier lieu 8 kilos. J'ai été hospitalisée pour cette perte de poids et une déshydratation sévère. J'ai malheureusement fait une rechute, j'ai été réhospitalisée puisque j'avais fini par reperdre encore 4 kilos, donc pour arriver à un total de 12 kilos perdus en 1 mois et demi. Je ne pouvais plus marcher, j'avais des perturbations cardiaques, des perturbations au niveau du foie.
Cette définition de l'hyperémèse gravidique ainsi que de ses critères de sévérité était donc nécessaire également pour déterminer comment prendre en charge la pathologie, avec ou sans médicament, explique Samantha Medjani-Jaco, l'une des ambassadrices de l'association.
Il existe des possibilités médicamenteuses, mais c'est très difficile de se faire prescrire. Il y a un espèce de tabou autour des médicaments pendant la grossesse, mais aussi le fait que la maladie ne soit pas reconnue.
C'est aussi pour cela que de nombreux hôpitaux préconisent encore l'isolement en chambre noire de la patiente, persuadée qu'il s'agit en fait d'un rejet inconscient de leur grossesse.
Mais une récente étude américaine a au contraire identifié des facteurs génétiques pour expliquer ces formes sévères de nausées. 14 départements touchés par des restrictions d'eau, presque tous également par des températures très élevées qui vont rester sur le pays pendant quelques jours encore. Face à cette sécheresse, dans certains départements, les pompiers sont en alerte incendie. C'est le cas par exemple en Côte d'Or. Le changement climatique renforce le risque de feu et les pompiers se préparent à faire face à des feux de forêt hors normes, Étienne Monin.
Ce camion qui démarre, c'est un peu la Rolls des combattants du feu. L'engin est impressionnant.
C'est un CCF 13000 parce qu'il contient 13 000 litres d'eau.
Il est spécialement équipé contre les incendies de forêt. Les pompiers de la Côte d'Or en ont deux depuis maintenant un an.
Encore 5 ans, même 10 ans, jamais on pensait être obligé d'acquérir ce type de véhicule en Côte d'Or.
Le lieutenant-colonel Olivier Roy est sous-directeur des ressources opérationnelles à Dijon. Il explique qu'ici, les premiers signes du changement climatique sont apparus en 2015 avec un incendie hors norme.
On s'est retrouvé avec un feu, un véritable feu de forêt extrêmement important puisqu'il a brûlé plus de 100 hectares aux portes de Dijon. Et on a été obligé de déployer réellement des stratégies comme on voit dans les feux importants du sud de la France.
La zone chaude et la zone des feux de forêt remontent de plus en plus.
Le contrôleur général Régis Desa, directeur du centre de secours.
Il est estimé que d'ici quelques dizaines d'années, je ne sais pas si c'est 10, 15 ou 20 ans, on aura un climat qui se rapproche de celle de l'Ardèche.
Mais la lutte contre ce nouveau type d'incendie passe aussi par la sensibilisation des agriculteurs et des propriétaires de forêts. Le prochain schéma de couverture des risques prendra en compte le réchauffement climatique.
Étienne Monin, c'est un scandale qui prend de l'ampleur en Espagne. La directrice des services de renseignement a été démise de ses fonctions par le gouvernement de coalition de gauche. Elle a fait mettre sur écoute des dirigeants indépendantistes catalans via le logiciel espion Pegasus. Ce départ ne calme pas pour autant les esprits. Le président de la Catalogne, Pere Aragonès, lui-même espionné, menace maintenant de retirer son soutien au Premier ministre Pedro Sanchez et donc de faire tomber son gouvernement. Correspondance à Barcelone d'Henri de la Guérie.
Lorsqu'il est espionné en 2019, Pere Aragonès est encore ministre régional de l'économie. 9 dirigeants indépendantistes viennent d'être condamnés à de lourdes peines de prison. La rue est en ébullition. Les services secrets le soupçonnent de coordonner les manifestations. Son téléphone est mis sous écoute via Pegasus, une pratique qu'il juge intolérable.
L'espionnage s'utilise contre des organisations criminelles et des groupes terroristes. Être en désaccord avec l'organisation politique de l'État ne peut en aucun cas être un motif valable pour entrer dans nos vies privées. Aucun démocrate ne peut l'accepter.
Le président catalan menace de retirer son soutien au gouvernement espagnol. Or, sans les députés de la gauche indépendantiste, le socialiste Pedro Sanchez n'a plus de majorité à Madrid. Pour éviter ce scénario, la patronne des renseignements a donc servi de fusible, mais ce n'est pas assez pour Aragonès.
Quand tu apprends que tu as été espionné, c'est très difficile de garder un minimum de confiance pour assurer la stabilité d'un gouvernement. Les mesures prises jusqu'à présent sont insuffisantes. Nous ne pouvons donner aucune garantie en ce qui concerne la stabilité de l'État.
L'indépendantiste exige de connaître le nom de celui qui a ordonné ses mises sous écoute. Il veut obtenir la garantie que cela ne se reproduira pas. Si les réponses apportées par Sanchez ne sont pas suffisantes, alors l'Espagne pourrait se diriger vers des élections anticipées. Barcelone, Henri de la Guérie, France Inter.
Ce sombre record aux États-Unis, une personne meurt toutes les 5 minutes par overdose. 107 000 morts en 2021, c'est 15% de hausse par rapport à l'année précédente. Et sur ce nombre de décès, plus de 70 000 sont liés aux opiacés de synthèse comme le fentanyl. À Washington, Sébastien Paour.
Le fentanyl, c'est cette poudre blanche qui est de plus en plus mélangée à l'héroïne et à la cocaïne par les trafiquants. Il est tout aussi addictif et il peut également être ajouté à des pilules antidouleurs de contrefaçon ou à de faux anxiolytiques comme le Xanax, des mélanges fabriqués au Mexique avec des produits venus de Chine et qui sont souvent mortels. 71 000 décès l'an dernier aux États-Unis par ces opiacés synthétiques. Plus globalement, le nombre de morts par surdose de drogue augmente chaque année depuis 70 ici, sauf en 2018, une crise aggravée par la pandémie de Covid et l'isolement forcé, surtout dans les États isolés comme l'Alaska, qui enregistre une hausse de 75% en 2021, année où les overdoses auront tué autant que le diabète et la maladie d'Alzheimer. La Maison-Blanche a présenté il y a 10 jours sa stratégie de lutte contre les drogues pour faire baisser la mortalité. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Il est 7h39, Cendrillon, le conte de Joël Pommerat, de retour à Paris.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin, jusqu'au 19 juillet, cette pièce a été créée en 2011 à Bruxelles. C'est l'un des plus gros succès du metteur en scène. Il aborde les questions du deuil et de l'émancipation. Il reprend cette Cendrillon avec l'équipe d'origine, sauf pour le rôle titre. Le metteur en scène a eu du mal à trouver sa perle rare. Elle s'appelle Léa Millet, comédienne débutante. Elles se font à merveille dans l'univers de Joël Pommerat, une révélation dont on devrait parler dans les années à venir. Stéphane Capron.
Léa Millet a fait plein de petits boulots avant de songer au théâtre, du dessin industriel à la plomberie en passant par la cordonnerie. Et l'année dernière, en consultant les réseaux sociaux...
En fait, j'ai vu une annonce Facebook d'une fille que je ne connaissais même pas qui disait qu'elle aurait rêvé mesurer 1m50. Et parce que moi, je fais 1m54. Et j'ai lu l'annonce et j'ai vu Joël Pommerat cherche Cendrillon. Je me suis dit, ça doit être une fausse annonce. Joël Pommerat cherche pas du tout sur Facebook, c'est pas possible quoi.
Joël Pommerat a reçu près de 500 demandes pour ce rôle avant de choisir Léa Millet.
Donc il a fallu vraiment prendre le temps, voir beaucoup de personnes, rencontrer beaucoup de gens, des gens très bien, mais qui n'étaient pas justes pour ce travail-là précisément. Et puis on a rencontré Léa et l'évidence, elle a été assez rapide.
Une actrice pas formatée qui apprend avec ardeur son nouveau métier.
C'était tellement mon rêve de faire du théâtre que je regardais les gens jouer, je me disais, oh là là, moi aussi je peux le faire. Bon, en fait non, c'est énormément de travail le théâtre. Mais c'est magique quoi. Et le jour de la première, Joël nous a dit, le travail commence. Et je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable, parce que moi, qui connaissais pas trop, je me disais, le travail se termine, quoi, on fait la même chose tous les soirs maintenant. En fait, pas du tout. Et c'est assez magique quand on connaît pas, en fait. Non, là, je vis un conte de fées, quoi.
Et qui va se prolonger, car Léa Millet figure dans le film de Michel Hazanavicius, projeté en ouverture du Festival de Cannes.
Cendrillon au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 19 juillet.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique arrive sur Inter.